Thomas Hardy, le maire de Casterbridge, chapitre 40. Bien avant 7 heures, Henchard, las de sa rêverie sur le pont, avait repris le chemin de la ville. Au bas de la rue, il aperçut tout à coup un cortège qui débouchait d'une avenue, juste devant lui. Le bruit des trompes, la vue des lanternes et de la foule le firent tressaillir. Il vit les deux mannequins sur le dos de l'âne et comprit tout. Le cortège traversa l'avenue, enfila une autre rue et disparut. Perdu dans une méditation sévère, Henchard fit quelques pas vers la ville, mais il finit par regagner son domicile par le sentier du bord de la rivière. Il ne se sentit pourtant pas en état de rester chez lui, et alla chercher Elisabeth à son logis. On lui dit que sa belle-fille était partie chez Mrs. Farfrae. Obéissant à un charme magique, ou mû peut-être par quelque appréhension secrète, il prit la même direction, avec l'espoir de rencontrer la jeune fille, puisque les fauteurs de scandale avaient disparu. Déçu dans son attente, il tira tout doucement la sonnette de Farfrae et apprit en détail tout ce qui venait de se passer. On lui dit que, sur l'ordre impératif du docteur, on était allé à la rencontre de Farfrae sur la route de Budmouth pour le ramener à la maison. Mais c'est vers Mellstock et vers Weatherbury qu'il est parti, et non pas vers Budmouth, s'écria Henchard avec une indicible peine. Mais Henchard, hélas pour lui, était perdu de réputation. On ne voulut pas ajouter foi à des paroles que l'on tenait pour propos oiseux d'ivrogne. La vie de Lucetta semblait, à ce moment, dépendre du prompt retour de son mari, car elle souffrait cruellement à la pensée qu'il pût jamais connaître le véritable état de ses relations passées avec Henchard. On n'envoya pourtant aucun messager dans la direction de Weatherbury, et Henchard, plein d'amère anxiété et de contrition, résolut d'aller lui-même à la recherche de Farfrae. Il courut vivement jusqu'au bas de la ville, prit, à travers la lande de Durnover, la route de l'Est, grimpa la colline dans la demi-obscurité de cette nuit de printemps, et suivit son chemin jusqu'à une seconde, puis à une troisième colline, située à quelque 3 milles de distance. Au fond de Yolbury, vallon encaissé entre deux collines, il s'arrêta pour prêter l'oreille. Il n'entendit d'abord que les battements de son cœur et les gémissements du vent, dans les sapins et les mélèzes du bois de Yolbury, qui s'étendaient de part et d'autre de la route. Mais bientôt il perçut le bruit de roues légères qui heurtaient leurs jantes contre des empierrements nouveaux, et distingua dans le lointain la lueur des lanternes. Il sut tout de suite que c'était le cabriolet de Farfrae sur la côte. Il y avait pour lui quelque chose d'inexprimablement familier dans ce bruit, car le véhicule lui avait appartenu, avant que l'Écossais ne l'eût acheté à la vente de ses biens. Henchard revint sur ses pas, suivi par le cabriolet qui avait modéré son allure dans la montée. Henchard était arrivé à l'endroit d'où partait la route de Mellstock. En gagnant ce village et en s'éloignant de Casterbridge, comme il en avait l'intention, Farfrae allait sans doute retarder son retour de 2 heures. Henchard vit qu'il n'avait pas changé d'idée, car les lumières de la voiture tournèrent le coin de la route du Coucou dont on vient de parler. La lanterne éclaira un instant le visage d'Henchard, et l'Écossais reconnut son adversaire de l'après-midi. « Farfrae ! Monsieur Farfrae ! » cria d'une voix haletante Henchard en levant la main. Farfrae laissa son cheval s'engager de quelques pas sur la petite route, avant de l'arrêter. Tirant alors les rênes, il lança par-dessus son épaule le « Oui ?» que l'on dit à un ennemi déclaré. « Entrez à Casterbridge tout de suite, fit Henchard. Il y a quelque chose de grave chez vous qui réclame votre retour. » « J'ai fait toute la route au galop pour vous prévenir. » Farfrae restait silencieux, et devant ce silence, Henchard sentit son cœur sombrer dans sa poitrine. Comment n'avait-il pas prévu une méfiance trop légitime? Lui qui provoquait 4 heures auparavant Farfrae à un combat mortel, se dressait maintenant en pleine nuit et dans un endroit désert devant son adversaire. Il l'invitait à abandonner une route où l'on pouvait facilement parer une attaque, pour prendre un chemin particulier où lui, Henchard, aurait très bien pu poster des camarades. L'ancien marchand suivait ses réflexions, au passage, dans l'esprit de Farfrae. « Il faut que j'aille à Mellstock, » répondit froidement l'Écossais, en rendant les rênes à son cheval. « Écoutez, » supplia Henchard, « la chose est plus sérieuse que votre affaire de Mellstock. Il s'agit de de votre femme. Elle est malade. Je vous raconterai tout en route. » L'agitation même et l'insistance d'Enchard renforcèrent les soupçons de Farfrae. Il crut à une ruse destinée à l'attirer dans le bois. Enchard voulait achever ce que son habileté ou un défaut de courage l'avait empêché de faire quelques heures plus tôt. Donald fouetta son cheval. « Je sais ce que vous pensez, » suppliait Enchard en courant derrière la voiture. Il était accablé de désespoir, en songeant à l'idée de hideuse bassesse que son ancien ami pouvait se faire de lui. « Je ne suis pas ce que vous croyez, » criait-il d'une voix rauque. « Écoutez, Farfrae, c'est seulement pour vous et pour votre femme que je suis accourue. Elle est en danger et je n'en sais pas plus, et l'on vous prie de rentrer. Un de vos hommes vous cherche sur la mauvaise route. Oh, Farfrae, ne vous y trompez pas, je suis un misérable, mais mon cœur vous est encore fidèle. » Farfrae se méfiait. Il savait que sa femme attendait un enfant, mais il l'avait laissée en parfait état peu de temps auparavant, et il était plus facile de croire à la traîtrise de l'ex-mère qu'à son histoire. Il avait en un temps entendu sortir de la bouche d'Enchard des paroles d'amère ironie. Sans doute s'agissait-il encore de telles paroles. Il activa le pas de son cheval et se trouva bientôt sur le plateau qui sépare Mellstock de Casterbridge. Le bruit des pas précipités d'Enchard sur la route ne faisait que donner plus de poids à ses appréhensions. Enchard vit s'estomper sur le ciel le cabriolet et son conducteur. Sa tentative pour le bien de Farfrae avait été vaine. Pour ce pêcheur repentant, le ciel n'avait plus de joie en réserve. Il se maudissait comme un Job moins scrupuleux ou comme l'homme violent qui a perdu le respect de lui-même, ce dernier soutien moral dans la pauvreté. Il en était arrivé là, après un temps de nuit intérieure, dont l'obscurité des sous-bois voisins donnait une image assez exacte. Il reprit bientôt la route qu'il avait amenée. Il ne fallait pas, en tout cas, que sa présence sur le chemin pût retarder Farfrae à l'heure de son retour. En arrivant à Casterbridge, Enchard retourna s'informer à la maison de l'Écossais. Dès que la porte s'ouvrit, il vit des visages inquiets tournés vers lui, de l'escalier, du vestibule et du palier, et entendit des voix désappointées dire « Ah, ce n'est que lui !» Le valet, ayant reconnu son erreur, était rentré depuis longtemps, et tous les espoirs s'étaient concentrés sur Enchard. « Alors, vous ne l'avez pas trouvé ?» demanda le docteur. « Si, mais je ne puis pas vous expliquer, » répondit Enchard en s'affalant sur une chaise du vestibule. « Il ne peut pas être ici avant 2 heures. » « Oh !» grommela le médecin en remontant dans la chambre. « Comment va-t-elle ? » demanda Enchard à Elisabeth, qui l'avait vue parmi les autres femmes. « Elle est en grand danger, père. Le désir de voir son mari l'agite terriblement. Pauvre femme, je crains qu'on ne l'ait tuée. » Enchard regarda un instant la tendre jeune fille, comme si quelque trait nouveau l'avait frappé en elle. Puis, sans rien ajouter, il sortit de la maison pour regagner sa chambre solitaire. Tel était le sort des rivalités humaines, se disait-il. La mort prenait l'huître en laissant les coquilles à Farfrae et à lui-même. Quant à Elizabeth Jane, elle devenait, dans la nuit de son âme, un point lumineux. La douceur de son visage lui avait été au cœur quand elle lui avait répondu du haut de l'escalier. Il y avait de la tendresse sur ce visage-là, et ce dont Enchard avait le plus soif maintenant, c'était de la tendresse d'un être pur et bon. Elle n'était pas sa fille, mais pour la première fois, il sentit confusément qu'il pourrait l'aimer comme sa propre fille, si elle voulait continuer à l'aimer aussi. En entendant Enchard ouvrir la porte de la chaumière, Job, qui allait se coucher, lui demanda « C'est une grave affaire que cette maladie de Mrs. Farfrae ?»« Oui, » répondit sèchement Enchard, sans soupçonner la part prise par Job à la farce tragique de la nuit, et en levant juste assez les yeux pour lui voir le visage ravagé d'inquiétude. « Il est venu quelqu'un pour vous voir, » reprit Job, au moment où Enchard s'enfermait dans sa chambre. « Une espèce de voyageur, un capitaine au long cours, je crois. »« Ah ? Qui cela pouvait-il être ?»« Il avait l'air à son aise. C'est un homme à cheveux gris, avec un visage large. Il ne m'a pas dit son nom et n'a laissé aucun message pour vous. »« Eh bien, je ne m'occupe pas de lui, » fit Enchard en fermant sa porte. Selon la prévision d'Enchard, la visite à Mellstock retarda presque de 2 heures le retour de Farfrae. La présence et l'autorité du jeune homme étaient nécessaires, entre autres raisons urgentes, pour envoyer chercher à Budmouth un second médecin. Quand l'Écossais rentra, il faillit devenir fou en songeant à sa méprise sur les intentions d'Enchard. Malgré l'heure tardive, on envoya un messager à Budmouth, et le second docteur arriva au petit jour. L'arrivée de son mari avait bien apaisé Lucetta, dont il ne quittait guère le chevet. Quand elle avait voulu, en le voyant entrer, balbutier le secret qui l'étouffait, Farfrae l'avait arrêté, en craignant que l'excitation des paroles ne lui fût fatale, et en lui affirmant qu'elle avait bien le temps de tout lui raconter. Il ne savait rien encore de la Skimmity Ride. Le bruit de l'accident et de l'état grave de Mrs. Farfrae avait vite fait le tour de la ville. Les auteurs du triste exploit, devinant trop facilement la cause de cette maladie subite, avaient prudemment laissé planer un silence de mort sur les détails de leur orgie, et, dans l'entourage de Lucetta, nul n'aurait voulu ajouter à la détresse de son mari par une allusion au scandale. Ce que Lucetta finit par dire à Donald, dans le silence de cette triste nuit, de son aventure passée avec Henchard, et jusqu'où elle poussa les aveux, nous ne saurions le dire. Elle confessa certainement le fait même de son intimité particulière avec le marchand de grains, comme les paroles de Farfrae en firent foi plus tard. Mais les détails de son attitude ultérieure, ses mobiles pour venir à Casterbridge et se rapprocher d'Henchard, les raisons plausibles qui l'avaient poussée à renoncer à l'ancien maire, le jour où elle avait trouvé des motifs légitimes de le craindre, bien qu'en fait sa passion inconsidérée et subite pour un rival fût la meilleure cause de cet abandon, la façon dont elle avait su traiter avec sa conscience pour épouser ce second homme quand elle se trouvait, en une certaine mesure, liée au premier, ce qu'elle révéla de tous ses secrets de son cœur, Farfrae seul aurait pu le dire. Presque aussi souvent que le veilleur qui appelait les heures et annonçait le temps à Casterbridge, une ombre arpenta cette nuit-là la rue du Blé. C'était l'ombre d'Henchard, pour qui toute tentative de repos s'était montrée illusoire. Il avait bientôt renoncé à poursuivre le sommeil, pour errer à droite et à gauche et s'enquérir de temps en temps de l'état de la malade. C'est à Farfrae autant qu'à Lucetta qu'il songeait, en frappant à la porte, et à Elizabeth Jane plus encore qu'aux deux autres. Dépouillée peu à peu de tout autre intérêt, sa vie semblait se concentrer sur la personne de cette belle fille, dont, naguère encore, il ne pouvait tolérer la présence. C'était une consolation pour lui de l'apercevoir, chaque fois qu'il allait demander des nouvelles de Lucetta. C'est vers 4 heures du matin, sous la lumière grisâtre de l'aube, qu'il s'approcha pour la dernière fois de la maison. Dans le ciel blanchissant, Lucifer pâlissait au-dessus de la lande de Durnover. Les moineaux descendaient dans la rue, et les poules commençaient à caqueter dans les basses-cours. À quelques pas de la demeure de Farfrae, Henchard vit la porte s'ouvrir doucement, et une servante leva la main vers le marteau pour détacher le morceau de drap dont on l'avait garni. Henchard traversa la rue, où les moineaux ne voulurent point quitter leur festin, tant ils craignaient peu une agression humaine à cette heure matinale. « Pourquoi retirez-vous cela ?» s'enquit Henchard. La servante, surprise de cette voix, se retourna et resta un instant sans répondre. Puis, reconnaissant Henchard, elle dit « On peut bien frapper aussi fort qu'on voudra. Elle n'entendra plus jamais. »